va jeter un œil à la circulation 15h38 à Boulevard dans le retour.
Les ralentissements inhabituels, plutôt si vous êtes sur la capitale direction est entre Henri IV et Laurentienne, ouais. Ouest entre Henri Bourassa et Laurentienne.
Ça ralentisse à cette heure-là, ça, là, c'est vraiment normal. Particulier. Ouais.
Jamais.
C'est
hein?
Unique.
Il y a aussi une tempête, quelque chose. Qu'on est bizarre.
Robert Bourassa, direction nord entre Charest et la capitale, c'est pas terminé. Quelques problèmes sur Henri IV Sud de Charest au pont Duplessis Sud. Ça se passe de chemin Sainte-Foy au pont La Porte. Le ralentissement inhabituel, il est dans le coin de Val-Bélair. À la hauteur, je vous dirais, de l'avenue industrielle, là, ça fait un bout quand même qu'il n'y a pas eu de problème dans ce coin-là. Devant la base militaire, route de la Bravoure dans les deux directions, toujours au ralenti. Il y a quelques problèmes également sur la rive sud, la 20 ouest entre la route du président Kennedy et Taniata. Ralentissement inhabituel sur Guillaume Couture dans les deux directions, hauteur de la route du président Kennedy. Vous voyez autre chose, 88-971-1021, ça passe par le texto.
J'aime ça quand le soleil fait ça puis qu'on vérifie des affirmations qui se promènent dans l'actualité puis ça donne bien. On s'est jasé de ça en début de semaine puis moi, mes cours d'histoire sont relativement loin puis quand on a eu nos cours d'histoire, mettons, le monde de notre génération, Véro, moi et peut-être une bonne gang de gens dans la quarantaine qui nous écoutent, bien depuis ce temps-là, on a comme révisé certaines théories puis certaines affirmations puis tu te demandes on est rendu où par rapport à ça? Je vous propose un cours d'histoire en condensé aujourd'hui parce que Jean-François Clich a fait du beau travail dans le journal Le Soleil. On parle de l'histoire de la rue Christophe-Colomb. Vous savez là, qu'il y a un crinqué qui est prêt à se mettre tout nu là, pour qu'on enlève le nom de la rue Christophe-Colomb à Québec. Puis son affirmation était quand même grosse par rapport à Christophe-Colomb. L'affirmation est la suivante. Et ça vient de Michel Béchard de l'organisme Un monde meilleur. Donc, un monde meilleur, là, c'est d'enlever toute trace du passé qui peut
nous rappeler déplaire. Qu'on a déjà fait des affaires bizarres.
Ouais, ouais c'est ça. Puis,
qu'est-ce qu'on puisse refaire les mêmes affaires plus tard.
Moi, si on trouve un Adolf Hitler qu'on n'avait pas trouvé avant, je suis bien d'accord tout qu'on fasse disparaître des traces. Là. Comprenons-nous bien. Mais lui, ce qu'il disait, et je cite, c'est « Les historiens et les chercheurs sont unanimes ». Christophe Colomb n'a rien découvert et a contribué au plus grand génocide de l'histoire humaine. Christophe Colomb est responsable de 70 millions de morts.
Ça sort d'où, ça?
Ben, c'est la question qu'on se pose, puis on va aller vérifier si c'est vrai ou pas. Voulez-vous un petit cours d'histoire en condensé?
J'adore ça.
OK, on va se mettre dans l'ambiance. Puis étant donné qu'on parle de Christophe Colomb, mettons que j'avais pas beaucoup de choix de musique.
Oh, Vangelis.
Un film qui n'a pas passé le test du temps. Hein? Je pense que si vous n'avez pas écouté le film 1492 dans le temps, les chances que vous tombiez là-dessus par hasard sont minces.
Mais la trame sonore est encore bonne.
Ben oui, ben oui. Les faits. Il est bien évident que d'un point de vue autochtone, Christophe Colomb n'a pas découvert grand-chose. Le Nouveau Monde était déjà habité. D'un bout à l'autre, en 1492, quand l'expédition de Christophe Colomb a atteint les Caraïbes. Alors, il n'a pas pu techniquement découvrir les Amériques. Il y a du monde qui vivait là. Du moins, pas dans le même sens que, par exemple, des marins portugais qui ont découvert les Açores au 15e siècle ou possiblement les Vikings avant eux. Colomb n'était pas le premier humain à arriver sur place. Ça, c'est le premier point. Donc, tu ne peux pas découvrir une place où il y a déjà du monde. Technicalité, mais quand même. La signalisation de la ville, la rue Christophe Colomb, nous présente Christophe Colomb comme le découvreur de l'Amérique. Fait que si tu veux contester ça, t'as peut-être une base de fond. Maintenant, l'existence des Amériques n'était pas connue des Européens à la fin du Moyen Âge. Colomb lui-même avait été mandaté par l'Espagne pour trouver la route des Indes, trouver un passage vers l'Asie pour aller chercher des épices. Ouais. C'est là qu'il croyait être arrivé en 1492. Il pensait qu'il était rendu en Inde. Cinq ans plus tard, quand Jean Cabot, mandaté par la couronne britannique, longe la côte du Labrador, toujours pas clair, ils sont où, là? C'est-tu l'Asie? C'est-tu autre chose? Ça a été long avec la gang se démêle. D'un point de vue européen, donc, Christophe Colomb a clairement découvert quelque chose, même s'il n'était pas au courant à 100% de c'était quoi qu'il avait découvert. Maintenant, C'est-tu le premier à avoir découvert l'Amérique? Là, il y a plein d'histoires et je trouve ça fascinant. La seule possibilité qui pourrait contredire l'idée que Colomb lui-même ait, avant son départ, eu vent de la présence d'un continent à cet endroit, c'est que les Vikings étaient présents au Moyen Âge. Sont allés avant nous autres. Mais on n'a aucune raison de penser que, sur un fil Twitter de l'époque, les Vikings, le fait qu'ils soient allés là-bas, ça se soit rendu du côté de l'Europe, là. C'est pas parce que les Vikings sont allés autour de l'an 1000 qu'ils sont allés s'installer dans le coin de Lance aux Meadows. Ça, c'est à Terre-Neuve.
Tu peux aller visiter des vestiges là-bas.
Tu sais, à la fin du 15e siècle, dans le sud de l'Europe, pas ceux qui étaient au courant des grandes épopées vikings.
Non.
Je te dirais que même ici, en 2025, on n'est pas tout au courant que les Vikings sont venus frôler le coin des... Je connais même du monde qui ne savait pas que les Newfies, c'était les gens de Terre-Neuve.
Ah, oh, ouais.
Oui, il ouais, y a des gens qui...
Il y a des infos comme ça qui ne passent pas à travers
le temps.
C'est
weird,
du monde de même.
Oui, oui, oui. Des gens...
Voyons, l'histoire, la gang. Culture générale.
Des gens comme Audrey Pinchot. De la même manière, ça, j'ai entendu ça à quelques reprises, puis je trouve ça le fun qu'il l'ait vérifié. Il y a une théorie tenace qui dit que bien avant Christophe Colomb, il y a des chasseurs de baleines qui se sont rendus en Amérique. Des baleines basques qui étaient recherchées par les pêcheurs. Mmh. Puis vers la fin du Moyen Âge, ben les baleines étaient de plus en plus rares le long des côtes, ce qui faisait que moins tu avais de baleines,
plus tu t'éloignais,
plus tu avançais dans l'océan pour essayer de les trouver.
Ils ont peut-être juste pas laissé de traces.
On dit que c'est pas complètement impossible que certains de ces pêcheurs-là se soient rendus jusqu'en Amérique bien avant Christophe Colomb, puis qu'ils aient gardé ça secret pour une raison, pour garder le spot de pêche, ni plus ni moins.
Il y a encore des gens qui font ça maintenant.
Ouais, mais il y a des historiens qui qualifient la légende de complètement ridicule. On trouve ça un peu étiré là, comme concept, que la chasse aux baleines peut amener à traverser en plusieurs mois l'océan, là, parce que
ben,
c'était
pourtant,
long.
C'est une des premières choses qui est revenue par texto. Les Basques venaient pêcher ici 100 ans avant Cartier.
Oui, c'est ça. Mais on dit que ça reste des spéculations qui sont improuvées en date d'aujourd'hui. On peut donc dire que oui, Christophe Colomb a découvert quelque chose, même s'il y a aussi clairement une question de point de vue à prendre en compte là-dessus. Mais la patente qui blesse le plus ou qui revole le plus dans l'affirmation, c'est de savoir, Christophe Colomb, as-tu causé un génocide chez les Premières Nations? Puis moi, c'est le bout que je trouve le plus intéressant parce qu'on a entendu un paquet d'histoires. Puis ça a l'air que l'histoire avec un grand H est maintenant en mesure, grâce à la science, d'expliquer tout bêtement qu'est-ce qui s'est passé avec les Premières Nations. 70 millions d'Autochtones qui sont morts dans les décennies suivant l'arrivée de Christophe Colomb, d'après vous autres, c'est vrai ou c'est faux?
Ben là, j'âge.
70 millions.
Je vais. J'ai jamais appris ça, fait que moi, j'ai le réflexe de dire c'est faux. Mais en même temps, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, fait que je.
Le chiffre est bon.
Arrête.
Le chiffre est bon. 70 millions d'Autochtones qui sont morts dans les décennies suivant l'arrivée de Christophe Colomb. Ça représente 90 % de la population autochtone d'avant Christophe Colomb, et environ 10 % de la population mondiale de l'époque. Pourquoi on est capable d'établir que ces chiffres-là sont probablement exacts?
Vas-y.
La science.
Eh oui.
La science. À une époque où il n'y avait pas de vaccin, écoutez comme faut en bosse, là. À une époque où il n'y avait pas de vaccin, hein? Ben les grosses maladies qui tuaient du monde, ben ils tuaient du monde parce qu'on n'avait pas de vaccin.
Ah, il avait rapporté une cochonnerie.
Intéressant. Non, c'est que on est arrivé, nous autres, avec des maladies pour lesquelles on avait des anticorps.
Ben oui.
Mais nous autres, on est arrivé avec ces maladies-là et les Premières Nations n'en avaient pas d'anticorps. De là à qualifier ça de génocide, là, on exagère parce qu'il n'y avait pas d'intention de décimer les Premières Nations. L'idée, il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas de malice derrière ça. Donc, des millions de gens qui sont morts, très principalement à cause des maladies que les Européens avaient amenées avec eux, contre lesquelles les Amérindiens, qui n'avaient jamais été exposés à ça, ne possédaient aucune immunité. Pas d'immunité génétique, pas d'immunité acquise. La plupart des microbes étaient associés aux animaux d'élevage de l'ancien monde du côté de l'Europe.
Vous connaissez les couvertures labées? L'abbé Dutson,
oui.
On les associait à ces décès-là, entre autres, parce qu'on les offrait. Puis on disait que ça donnait la variole, mais c'était les contacts simplement qui faisaient ça. Puis ça a été une histoire qui a circulé pendant années et des années. Ça faisait partie de l'échange quand on faisait du troc.
Les maladies en question, là, appelons ça le Big Four. Les quatre premières qui ont fessé, c'est la variole, la rougeole, l'influenza et la peste bubonique. C'est une étude qui a été faite en 2019, puis on dit que chacune de ces maladies-là, à elle seule, peut tuer 30 % d'une population où il n'y a pas d'immunité pantoute. Là. Fait que ça se tient. Mm-hmm. Parce que ça, c'est la première vague, mais après ça, il y a d'autres virus qui ont été amenés par les Européens, la malaria, la diphtérie, le typhus, le choléra. Fait que là, additionne tout ça en te disant qu'une seule de ces maladies-là, quand tu n'as pas d'immunité, peut tuer 30 % de ta population, se rendre à 70 millions de morts et à 90 % d'une population. Puis, tu sais, là, on peut se lancer dans un débat. Christophe Colomb, sa gang, les autres qui sont arrivés, ils ont-tu toujours été super gentils avec les gens des Premières Nations? Probablement pas.
Mais il y a plusieurs histoires qui disent que les Premières Nations ont même aidé Christophe Colomb.
Bien, entre autres, ben c'est plus concernant Jacques Cartier, je pense. Là,
ah, ça se peut, ça se peut.
Oui, les premiers colons français ont dit que la cohabitation s'est faite de façon pacifique, de façon sereine, 95 % du temps, à l'exception de certains peuples, parce qu'il y avait des peuples de Première Nation qui étaient en guerre bien avant que les colonisateurs arrivent. Mais tu sais, on avait entendu plein d'affaires qu'on donnait des couvertes pour donner de la maladie aux Premières Nations. C'est juste arrivé sans mauvaise volonté nécessairement, juste par la science, du fait qu'ils n'étaient pas immunisés, puis à partir du moment où il y avait des contacts.
Aujourd'hui, on voyage, puis souvent on va nous dire de se faire vacciner ou de prendre certains médicaments avant d'être dans certains pays parce qu'on n'a pas les anticorps pour faire face à
la malaria ou il y en a plein.
Ça fait beaucoup de sens. Là.
Je trouve ça fascinant, par exemple, de voir que maintenant, avec des approximations puis avec la science, tu es capable d'établir certains faits comme ça. Mm. Est-ce que Christophe Colomb est responsable du fait que 70 millions d'Amérindiens aient perdu la vie? Factuellement, oui, mais c'était pas...
Mais c'est la colonisation, c'est pas lui l'individu.
Ouais, puis c'est pas... Tu sais, prenons un cas extrême. Adolf Hitler voulait tuer des Juifs.
C'est intentionnel.
Il en a tué des millions. Il a utilisé des chambres à gaz. Il a utilisé des fours crématoires. Il a utilisé un gouvernement et une armée au grand complet dans le but d'exterminer des millions de personnes. Alors que dans le cas des premiers colonisateurs, c'est vraisemblablement juste un mauvais addon de virus et rien d'autre. Ce qui enlève rien de la gravité de ce qui s'est passé.
Oui, parce qu'il y a eu d'autres gestes aussi. Là.
Parce que ça, c'est pas contesté. T'sais. Le fait que ça a été une catastrophe pour les membres des Premières Nations à partir du moment où on est arrivé de l'autre bord de l'océan, ça, c'est pas contesté. Ce qui est contesté, c'est le raisonnement derrière ça. Puis ce que je trouve intéressant dans l'exercice, désolé si je vous ai un peu emmerdé, là, c'est pas de l'actualité, puis tout, mais t'sais, on est comme dans un mouvement où on veut tout réviser, mais à l'extrême. On veut passer d'un extrême à l'autre, tout le temps. Alors que souvent, la vérité, ben, est dans le gris.
Ouais.
Elle est entre deux eaux, puis je trouve que c'est un bel exemple. Fait que la conclusion du journaliste du Soleil, c'est de dire que c'est faux, qu'il faut attribuer un génocide à Christophe Colomb. Fait qu'on pourrait garder le nom de la rue, puis avoir des maudites belles discussions là-dessus. Moi, je trouve que c'est à ça que ça sert.
Oui.
Si tu enlèves le nom, tu n'as plus de discussion. Si tu gardes le nom, là, tu peux commencer à jaser, puis raconter des histoires, puis raconter ce qu'on vient de faire dans les dernières minutes.
Plus souvent.
Ah ouais?
Ah, moi, j'aime tellement ça, là.
Je suis jamais sûr, parce que moi, ça me fascine, mais des fois, je me demande si je suis pas un peu tout seul.
Bien, pas en tout, mais c'est parce que c'est tellement loin. Je veux dire, on apprend ça début du secondaire dans des petits cours d'histoire.
Puis encore là, c'est souvent, il y a des raccourcis qui sont pris.
C'était fleuri. Je viens de mélanger Cartier puis Colomb.
Alors qu'on avait, là, je pense qu'il y avait des jeunes qui étaient, oui, passionnants en histoire, qui portaient vraiment plus attention, mais moi, ma tête voguait à autre chose.
Hey, mon Dieu, t'as même pas aidé. Ouais. Je me souviens après.
J'avais pas
dates.
De très bons profs d'histoire, par exemple.
Ouais, mais ça aide pas.
Donc, la conclusion, c'est s'il est incontestable que l'arrivée des Européens fut une catastrophe absolue pour les Amérindiens, dont la population pourrait avoir chuté de 90 % au 16e siècle, tout indique que c'est là le résultat d'un choc microbien et non pas d'un génocide à proprement parler. La question de savoir si Christophe Colomb a réellement découvert quelque chose, là, à partir de là, on peut débattre et on peut échanger. Donc, voilà.
Je te dis que par texto, les gens sont unanimes sur le fait que c'est vraiment des capsules de fun.
Puis, je sais qu'il y a certains peuples qui avaient des objectifs d'enrayer les gens des Premières Nations. T'sais, on me fait mention des conquistadors, de certains conquérants espagnols et ainsi de suite. Il y a eu des horreurs qui se sont faites particulièrement aux États-Unis, peut-être un peu plus tard dans le processus aussi. Ça n'enlève rien de tout ça. Mais sur la question de base, c'est-tu de la faute à Christophe Colomb? La réponse est oui, mais non. Ça partait pas d'une mauvaise intention.
Non-responsabilité criminelle.
Ouais, il y a peut-être un petit peu de cela aussi. Il est 15h53. Vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour. Pas de stress. On va retomber. On va replonger dans l'actualité.
Oh non, ça fait du bien. C'est une belle bouffée d'air.
Ouais, OK. Parce qu'on replonge là, dans les prochaines minutes. On va aller voir. Le deadline achève pour...
Oui, ça n'a pas bougé encore. Je surveille ça.
Oui, je sais. Une chance, tu es là pour surveiller ça pour nous autres.
21 minutes.
Oui, 21 minutes avant le deadline pour que Marois Risky nous donne sa version des faits. Puis après ça, les avocats s'en mêlent, puis c'est le feu d'artifice. Mais le feu d'artifice va s'éloigner de nous autres parce que le reste se fera vraisemblablement pas devant public, à moins qu'il y ait des aveux supplémentaires ou d'autres illettrés de la politique qui se sont échangés des textos plein de fautes. Dossier à suivre. On s'arrête, on revient. Gravel. Boulevard.